This is the ICANN Accountability and Governance Cross Community Group meeting for October 13th, 2014 in the Los Angeles room from 1600 to 1715.
Okay, so everybody wants to hear about the accountability process now.
Très bien, tout le monde veut entendre parler du processus de responsabilité. C'est le moment de s'asseoir et d'écouter ce qui va être dit. Voilà. Teresa Swinehart prend la parole. Bien, très bien. À l'origine, lorsque nous avons publié ce processus le 14 août, vous avez dû voir que l'on avait suggéré d'avoir un groupe intercommunautaire et ce bloc horaire a été réservé pour que la communauté puisse être réunie et parler de la manière dont on peut s'organiser dans ce contexte, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous. Après cela, nous avons eu des commentaires de la communauté. Une période de consultation de 21 jours qui a donné de très bons résultats et qui nous a permis de faire des révisions substantielles de ce processus. Pendant cette séance, nous allons vous faire une introduction au processus pour que vous sachiez où il se trouve. Nous allons entendre Larry Strickland qui va nous expliquer un peu comment fonctionnent les groupes de travail intercommunautaires et ce qu'ils sont, et le dialogue qui peut être établi avec la communauté autour de ces thèmes-là. Il va nous dire aussi comment ce modèle de groupe intercommunautaire peut nous aider à voir comment fonctionnent les principes autour de cela. Voilà donc une synthèse rapide pour ceux qui n'ont pas suivi de près ce processus, comme d'autres l'ont fait, ont pu le faire. Le dialogue quant à la responsabilité de l'ICANN dans le contexte de l'annonce de l'NTIA a commencé donc en fait par l'annonce elle-même, parce que nous avons compris que les États-Unis jouent un rôle qui est perçu dans le monde et qui est lié à la responsabilité de l'ICANN et à la manière dont on peut aborder tous les aspects qui peuvent bénéficier de cette transition historique dans le rapport ou dans la fonction de supervision des fonctions de l'INA. Il y a eu une période de commentaires publics entre le 8 mai et le 27 juin dernier. On a eu de très bons commentaires très positifs. Le processus a été publié le 14 août. On a reçu des très bonnes questions de la communauté qui ont donné lieu à des précisions. Pendant l'IGF, on a fait une séance plénière et c'était un espace où l'on a eu des difficultés pour voir et identifier les problèmes de responsabilité de l'ICANN. Cela a été très intéressant pour tout le monde dans le contexte de la transition et nous nous sommes demandé comment cela pourrait être fait de manière appropriée. Avec les lettres de la communauté qui ont été présentées pour demander davantage de temps et une période de consultation publique un peu plus longue, on a reçu des commentaires avec de très bonnes suggestions pour faire des modifications et pour appliquer ce qui est appelé le modèle du groupe de travail intercommunautaire. Une fois analysés les commentaires, il y en a eu 17 et il y avait des commentaires conjoints des organisations de soutien des comités consultatifs et d'autres groupes. On nous a suggéré de continuer à utiliser ce modèle intercommunautaire. Nous allons donc voir certains principes qui ont été créés ou sont venus comme résultat de ce dialogue. On a désigné 7 conseillers suivant ce que les experts ont dit. On a dit qu'il faut avoir un maximum de 7 conseillers désignés par les experts. Il faut aussi avoir 4 experts qui ont aussi été identifiés pour présenter parmi nous les meilleures pratiques venant d'autres domaines différents de ceux de l'ICANN et en dehors des domaines de connaissances que nous avons au modèle de l'ICANN. Donc cela nous permet d'avoir d'autres modèles différents d'organisation. On a aussi l'agent des liaisons du conseil d'administration, parce qu'il faut que le conseil d'administration puisse prendre une décision à cet égard. C'est l'occasion donc de maintenir ce dialogue. D'autre part, une personne du personnel de l'ICANN a été désignée pour fournir de l'information sur les mécanismes de révision, sur les processus de révision. Il y a quelqu'un qui aurait dû participer au processus ATRT et ATRT 2. Il faut que dans ces processus, on considère aussi l'information pour établir les responsabilités, le dialogue. Il y a donc un lien entre les fonctions de l'IANA à moins. Bien sûr qu'il y a un type de lien dans ce processus. C'est quelque chose qui est très important. Et la participation doit être ouverte pour tous. Nous voulons un modèle d'un groupe intercommunautaire qui permette de participer aux comités consultatifs, aux organisations de soutien et qui permette à tous ceux qui veulent le faire de participer, y compris des personnes individuelles ou des organisations ne faisant pas nécessairement partie de ces organisations de soutien ou de ces comités consultatifs. Il y a eu des commentaires sur le fait que les conseillers ou le comité consultatif ou le personnel auraient une voix. Ils n'ont pas de fonction à cet égard. Et s'il y a un vote ou un appel à consensus, les participants ne voteront pas et ces groupes-là ne le feront pas. Le rôle du conseil d'administration par rapport aux recommandations, c'est quelque chose que le conseil d'administration analyse en ce moment et qu'il va traiter. Une autre chose concerne la portée de ce processus concernant la transition par rapport à la relation avec le gouvernement des États-Unis. Pendant les discussions, il y a eu des thèmes spécifiques qui se sont présentés et qui ont été très intéressants pour la communauté, pour organiser des dialogues concernant ces thèmes-là, même si cela peut ne pas avoir une influence directe sur la modification de cette relation. La suggestion est d'avoir deux pistes de travail dans le cadre de ce groupe de travail intercommunautaire. Et ces deux pistes peuvent être parallèles ou elles peuvent être consécutives. On va se centrer d'abord sur la responsabilité de l'ICANN sous le jour de la transition en elle-même pour pouvoir avoir une bonne coordination. La deuxième partie concerne la responsabilité qui n'est pas à la portée de cette première piste de travail. Il est important de comprendre que ce groupe travaille avec la communauté des noms de domaine pour la transition des fonctions de supervision de l'IANA. Et il y a là aussi une discussion sur la responsabilité. On analyse aussi un règlement parce qu'il y a un domaine beaucoup plus étroit de responsabilité spécifique lié aux parties qui ont des rapports opérationnels avec les fonctions de l'IANA. Nous sommes donc au carrefour d'un domaine très complexe, mais nous voyons l'image la plus large, disons, et les différents espaces opérationnels pour les premières parties. Alors, c'est maintenant le moment de la communauté de commencer à travailler sur ce processus. C'est une séance informative, celle que nous avons maintenant, et nous voulons commencer les discussions. Nous attendons impatients tout ce qui peut arriver pendant cette semaine. Je cède donc la parole à Larry Strickland, qui est le secrétaire adjoint aux communications de l'NTIA, pour quelques commentaires. Larry Strickland prend la parole. Merci, Teresa. Étant donné la confusion qu'il y a dans la communauté, j'ai eu l'occasion de faire quelques remarques pendant une séance à Istanbul et Teresa m'a demandé de répéter certains de ses commentaires, espérant que cela pourrait nous aider à mieux comprendre la vision qu'il y a aux États-Unis sur ces différents espaces de travail et sur ce que nous pensons qu'il faut faire pour que ce processus puisse se faire aux États-Unis. Premièrement, il y a trois points essentiels. Premièrement, j'ai vu qu'il y a une confusion et je l'ai entendu dans la réunion du GAC, et je crois que c'était clair déjà hier, mais je veux le répéter pour le plus grand avantage pour tout le monde. La première piste de travail, la transition des fonctions de supervision de l'IANA, il y a la deuxième piste de travail sur la responsabilité, au moins en ce qui concerne la vigueur et l'échéance du contrat. Les deux efforts sont toujours en rapport, mais il faut que l'on puisse travailler sur des lignes temporelles qui nous permettent de parvenir à une conclusion à un moment donné où l'on pourra proposer on pourra présenter une proposition au gouvernement des Nations Unies. Nous ne disons à personne quel doit être le moment pour que cette proposition soit faite. Nous pensons que la communauté doit se rappeler que le contrat parvient à échéance le 30 septembre. Mais c'est la communauté qui doit déterminer le travail qui doit être fait et s'organiser dans le cadre temporel qu'elle estimera nécessaire pour nous présenter un plan prêt à être mis en place. Il faut souligner que ces deux efforts doivent être très bien réfléchis et qu'ils doivent être faits d'une manière ouverte, transparente, même pour ces questions qui sont liées à l'échéance du contrat. Lorsque cela se passera, lorsque cela arrivera aux États-Unis, tous les yeux seront rivés sur nous. Il y aura beaucoup de personnes qui vont se poser des questions là-dessus. Comment est-ce que vous avez fait pour ceci? Est-ce que vous avez tenu compte de cette possibilité, de cette contingence? Est-ce que vous avez pensé à résoudre ce problème? Il faut que nous soyons capables de dire que nous avons considéré toutes ces contingences, que nous avons pensé à toutes les solutions et que les plans en tiennent compte. Parce que c'est ce qui intéresse ici, d'avoir un plan bien établi, bien mûri, bien réfléchi. Nous avons entendu dire, nous avons entendu parler du terme stress testing, en anglais les épreuves, les essais sous contrainte, c'est quelque chose dont Steve Delbianco a parlé. Donc nous voulons que le plan le plan a été développé d'une manière consciencieuse, tenant compte de tous ces problèmes. Teresa a déjà parlé de tout ça, mais je veux le répéter. Le processus ou la piste de travail numéro 1 est centré sur la transition des fonctions de supervision de l'IANA. Mais il faut que nous évaluions là comment ces fonctions sont jouées, quels sont les indicateurs de performance, quelles sont les conséquences si ces fonctions ne sont pas réalisées de la manière dont elles ont été promises à la communauté. Voilà pour la responsabilité. Mais il y a des questions plus larges pour la deuxième piste de travail. Elles sont liées à des questions. Si quelqu'un veut faire une prise de contrôle hostile du conseil d'administration, que se passe-t-il s'il y a une autre défi à relever quant à la structure de gouvernance de la part des organisations ou des gouvernements ou des choses de la sorte? L'absence du gouvernement des États-Unis et l'absence de ce contrat avec les États-Unis doit nous rassurer sur le fait qu'il y aura une gestion responsable de la part de l'ICA en pouvant rendre des comptes devant la communauté mondiale. C'est ce que les gens veulent voir. Les gens veulent éviter que ce type de solution puisse se produire, ce type de capture. Et cela est très important lorsque l'on organise les deux pistes de travail. La troisième observation que je voulais faire, c'est que cette deuxième piste de travail sur la responsabilité soit organisée et que les gens soient centrés en premier lieu sur les questions de responsabilité soulevées par l'échéance du contrat avec les États-Unis. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres questions liées à la responsabilité qui doivent être traitées. Moi, en tant que membre des deux ATRT, des deux équipes ATRT, il y a beaucoup de thèmes que je pense qui devraient être abordés. Certains points qui sont abordés maintenant, nous aurions énormément aimé pouvoir les aborder l'année dernière, qu'on nous les ait présentés l'année dernière. Nous sommes face à un bon nombre de changements et les gens sont maintenant beaucoup plus centrés qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Nous devons comprendre que l'ICANN a proposé que cette deuxième piste de travail ne se limite pas d'elle-même en termes de contenu. Il est très important que le groupe soit centré en premier lieu et qu'il établisse des délais, des dates butoirs bien clairement définies pour pouvoir travailler sur ce facteur, sur le fait que le contrat ne sera plus en vigueur. Pour le moment, nous avons la présence des États-Unis dans une relation contractuelle qui pourrait éviter que des mauvaises situations se produisent. Mais que pourrait-il se passer lors de l'échéance du contrat? Voilà les premières questions dont il faut tenir compte. Des questions de type financier ou budgétaire, bien sûr, cela pourrait être analysé. Mais si vous voulez attendre le prochain ATRT, bon, pas de problème, c'est à la communauté de le décider. Mais si nous sommes paralysés par tout ceci, il y aura un moment ou la capacité de cette organisation pour présenter un plan, et non seulement l'organisation, mais vous tous, la communauté, pour nous présenter de manière opportune l'année prochaine, cette occasion pourrait être dans une situation compromettante. Voilà donc les remarques que je voulais faire. J'ai formulé la plupart de ces commentaires en Turquie et je suis heureux de pouvoir les répéter ici. Si vous avez besoin d'autres précisions, je suis à votre disposition. Je crois que Marika vous parlera de ce groupe intercommunautaire pour voir comment il fonctionne. Marika Konings prend la parole. Merci Larry, je suis directrice senior de politique. Je suis la leader de l'équipe de la GNSO, l'organisation de soutien au nom générique. Il y a ici cette diapo que j'ai présentée, que j'ai préparée avec Mark Boswinkel. Il est fort probable qu'il veuille ajouter quelque chose à ce que je veux dire. Nous avons travaillé ensemble et nous avons des expériences sur ce type de groupe intercommunautaire. Nous avons estimé que ce serait utile peut-être de vous montrer des bonnes pratiques existantes et les principes avec lesquels nous travaillons dans ces groupes-là. Quel est le propos de ces groupes ? Ces groupes sont utilisés lorsque la communauté estime que l'on peut développer des recommandations sur des thèmes communs à plusieurs organisations et comités consultatifs. Par exemple, s'il s'agit d'une question liée à un GTLD, si c'est ce cas-là, par exemple, c'est la GNSO qui s'en occupera. Et si ce n'est pas à la portée de tout ce qui concerne le développement politique des organisations de soutien, les groupes intercommunautaires n'ont pas des mécanismes existants pour faire une recommandation par rapport au développement des politiques. Ça, c'est la responsabilité des organisations de soutien. Bien sûr, il faut qu'il y ait le besoin ou le souhait de deux ou plus organisations de soutien et comités consultatifs pour travailler ensemble sur ce thème-là et pour formuler des recommandations là-dessus. Voilà certains des principes que nous pouvons extraire des derniers efforts. Ils ne sont écrits nulle part. C'est quelque chose qui se rapporte à une entente commune, à une compréhension commune sur le fait qu'il s'agit des principes de base guidant le travail de ces groupes intercommunautaires. En premier lieu, nous avons une charte identique identique à celle qui était adoptée par ces comités consultatifs et ces organisations de soutien. Cela nous aide à mieux travailler, à comprendre comment les choses sont traitées et comment nous espérons que le groupe travaille. Normalement, ces organisations désignent des membres avec l'idée qu'ils seront responsables d'apporter de l'information à leur communauté pour que ces groupes-là soient bien informés, de façon à ce que lorsqu'un thème sera reconsidéré, qu'ils ne sont pas suffisamment préparés pour présenter leur contribution. Cela ne signifie pas que d'autres ne peuvent pas participer. Normalement, ces groupes intercommunautaires sont ouverts à tous ceux qui veulent participer. Tout le monde peut participer sur un pied d'égalité dans les réunions. On en fait des transcriptions. Les personnes peuvent présenter leurs idées, leurs commentaires et l'on peut discuter de toute proposition que vous ayez pu présenter. Normalement, en plus de ça, normalement, la charte détermine les occasions et les manières dont il faut demander les commentaires publics et la participation d'autres parties qui ne veulent peut-être pas participer à l'effort en soi. Normalement, nous avons des commentaires publics sur un effort initial, ainsi qu'un appel à une diffusion externe à d'autres acteurs pour qu'ils présentent leur contribution de manière précoce et que le groupe puisse avoir toute l'information nécessaire suffisamment en avance et puisse bien comprendre comment fonctionne la question. À la fin du processus, il faut qu'il y ait un rapport final ou quelque chose de la sorte de la part de ce groupe communautaire fait par chacune des organisations constituantes avant de le présenter au conseil d'administration de l'ICANN. Comme je l'ai dit, il y a donc une charte qui est déterminée par toutes les organisations constituantes et cette charte inclut généralement différentes thèmes. Le premier, le plus important, bien sûr, concerne les objectifs de cette charte, que tout le monde puisse comprendre la portée et les méthodes de travail du groupe, quels sont les thèmes qui vont être abordés, quelles sont les limitations ou les limites établies pour les thèmes abordés. Il y a en plus différents articles ou chapitres qui concernent la portée, les objectifs, quels sont les produits à présenter. Par exemple, le CCWG a donné des délais spécifiques pour présenter ces rapports, des rapports que l'on doit présenter aux organisations constituantes et à la communauté en général, pour que l'on sache que toute la communauté puisse comprendre ce qui se passe et puisse donner sa collaboration. On parle aussi de l'adhésion du personnel qui compose ce groupe de travail, comment il est organisé, il fixe les normes de participation au groupe de travail, et l'on parle aussi, et c'est très important, des méthodes de prise de décision. Parce que pour la plupart des organisations de l'ICANN, ces décisions sont prises en général par consensus. Nous avons aussi entendu dire que l'on tient compte des oppositions et que l'on peut les présenter pour que les points de vue des minorités puissent être reflétés dans ces rapports. Il faut que l'on sache aussi qu'il peut y avoir une modification à la charte si le groupe de travail intercommunautaire décide qu'il faut le faire. On parle aussi des processus pour l'adoption de certaines mesures et de ce qui arrive lorsque le groupe de travail intercommunautaire finit son travail, par exemple. Comment on s'occupe de cela pour le présenter aux organisations constituantes? Si cela arrive, si l'une de ces organisations a des soucis et qu'elle n'a pas adopté le rapport final ou quels sont les processus à suivre dans des situations de ce type, il faut voir comment on reprend les discussions et comment on travaille sur ces soucis que les participants ont présentés. Cette charte est développée en général par une équipe de rédaction qui est formée d'un nombre réduit de représentants venant des organisations de soutien, des comités consultatifs intéressés à adopter cette charte comme une organisation constituante. Il se peut que ce ne soit pas exactement ces organisations qui participent à la rédaction, mais ils peuvent peut-être faire partie de l'une des organisations constituantes ou rejoindre ce groupe intercommunautaire. Une fois ce travail fini, la charte revient à chacune des organisations pour qu'elles votent, et chacune d'elles suivra ses propres processus pour l'adoption. Une fois que la charte a été adoptée par les différents groupes, on appelle les volontaires ainsi que les membres qui peuvent être désignés par les organisations constituantes suivant leurs propres processus et procédures. Voilà quelques exemples des groupes de travail intercommunautaires. Vous y avez participé, peut-être quelques-uns parmi vous, ou vous y participez. Bien sûr, il y a le groupe intercommunautaire de la transition de la supervision des fonctions de l'IANA. Il y a aussi le groupe sur l'utilisation des extensions géographiques et des noms de territoire pour les TLD. Il y a aussi le groupe intercommunautaire qui s'occupe des principes pour les travail des groupes de travail intercommunautaire. Pour essayer de formaliser et de coder ces principes dans un document que nous espérons sera adopté par tous les différents groupes pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, je cède la parole à Jonathan.
Baron Holland prend la parole. Merci, Marika. Je crois que ce que tu as dit est très intéressant sur le fonctionnement des groupes de travail intercommunautaires. Jonathan et moi-même, en tant que président de la GNSO et moi-même comme président de la CCNSO, nous allons vous montrer comment nous avons démarré le travail de CWG ou groupe de travail intercommunautaire sur la transition des fonctions IANA et tout ce qui vient d'être dit. Ce que nous avons fait jusqu'à présent donne un cadre ou un point de départ pour le groupe intercommunautaire de la responsabilité, le groupe de travail de la responsabilité. Il y a des observations qui ont été faites, surtout sur la transition de l'IANA qui peut servir à ce groupe. Le CWG sur la transition de l'IANA est différent de celui de la responsabilité parce qu'il y a un démarrage organique. Essentiellement, il a été établi que cela doit traiter spécifiquement les noms de domaine parallèlement au protocole de paramètres, au numéro et au protocole et les paramètres. Dans ce contexte, les opérateurs de registre qui sont définitivement des services affectés par les services IANA se sont dit, eh bien, comment on peut participer dans le processus de transition dans quelque chose, dans des activités vraiment importantes. Alors, la formation a été organique. Et quand on a démarré cette formation, nous avons reconnu en tant qu'opérateurs de l'industrie, nous sommes directement affectés par les fonctions IANA. Et il serait utile de voir comment le reste de la communauté de l'ICANN participe également. Voilà pourquoi les présidents des différents groupes ont invité le reste des communautés de l'ICANN, les organisations de soutien et les comités consultatifs. En plus de participer de ce groupe de travail intercommunautaire, eh bien, au début, il y a eu une équipe de rédaction. C'était un processus simple où il y avait deux participants de chacune des organisations de soutien et des comités consultatifs. Qui étaient les organisations constituantes qui incluaient CESAC, ALAC, la GNSO, la CCNSO et le GAC. Le GAC aussi. Entre nous, nous avons créé l'équipe de rédaction de 10 personnes. On a travaillé sur une charte que tout le monde pouvait voir. Cette charte a été présentée pour révision et discussion à la communauté. Elle a été finalement acceptée. Je crois qu'il y a différents éléments inclus dans la charte qui peuvent être importants, notamment pour le groupe de travail intercommunautaire de la responsabilité. On a beaucoup débattu sur la dimension du groupe, sur la portée et aussi sur les objectifs. Heureusement, on est arrivé à la conclusion quant à la grandeur du groupe. Et je vais vous en parler dans un moment. L'ICG, eh bien, je vais dire exactement quels ont été les objectifs de ce travail et la portée aussi, quelle serait la portée. Je vais parler aussi du contrat de l'IANA lui-même parce que c'est assez spécifique vis-à-vis de ce qu'il fallait articuler dans le contrat. On avait donc le bénéfice de ces deux documents clés qui nous aidaient à établir notre portée. Il est très important, je dois dire, de reconnaître qu'est-ce qui se trouve dans la portée et ce qui est en dehors de la portée. Voilà donc pourquoi, avec l'équipe de rédaction, nous avons débattu. Et, bien évidemment, la responsabilité était un de ces facteurs clés. Il y avait des textes spécifiques sur la portée de la responsabilité ayant trait aux éléments opérationnels et de mise en œuvre de la transition des fonctions de supervision de l'IANA et aussi de toute l'ICANN. Clairement, ceci a été établi et nous avons commencé à travailler. Nous savons bien que tout cela est lié compte tenu des résultats. L'équipe de rédaction a donc établi la charte qui a été accordée. Le nombre de participants a été aussi un défi parce que les différents participants avaient différentes capacités en termes du nombre de personnes qui pouvaient se consacrer à la tâche, les intérêts relatifs, les clients directs et d'autres personnes intéressées. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion, et nous croyons que c'est une conclusion élégante, que nous allions laisser à chaque unité constitutive ou participant avoir entre 2 et 5 membres. Du point de vue de la GNSO et de la CCNSO, il s'agit de questions clés parce que nous parlons de clients. Alors, nous avons présenté 5, mais il y a d'autres comités consultatifs qui ont décidé de proposer moins de membres. Alors maintenant, vous vous demanderez comment ça fonctionne pour le vote, comment ça va se passer. Et bien évidemment, il a fallu aborder la question et nous sommes arrivés à une conclusion, à savoir qu'il y avait le plein consensus en comparaison avec le consensus tout court. Et on a créé une structure où le nombre n'allait pas être déterminant. Alors, on a fait, on a établi une manière d'évaluer la prise de décision. Nous avons également reconnu dans ce processus que ce chiffre ne faisait pas le travail du groupe de travail. Ce n'était qu'un élément de communication de la communauté vers la communauté. Et voilà pourquoi on a demandé des volontaires qui étaient non seulement ceux qui allaient faire le travail, mais on s'attend à ce que ces volontaires prennent des informations, présentent des commentaires des communautés, expriment cela au groupe de travail. Mais en même temps, est également important qu'ils prennent les résultats, les décisions et les délibérations du groupe de travail et qu'ils les transmettent périodiquement à chacune de leurs unités constitutives. Je crois que celui-ci est un autre élément critique du SWG de l'IANA et je crois que ce sera la même chose pour le CCWG de la responsabilité. On a reconnu en partie qu'il y a un grand intérêt de la communauté dans cet espace et que pas tout le monde peut être des membres ayant droit de vote. Je crois que nous avons donné également beaucoup d'importance aux droits et privilèges des gens qui veulent participer mais qui n'étaient pas des membres. Alors nous avons des participants qui ne sont pas membres du CWG. Quant au droit à la parole, ils ont le droit plein, bien évidemment, à tous les documents aussi, mais ces participants n'ont pas le droit de vote au cas où on arriverait à cette instance. Il y a une énorme possibilité pour que n'importe qui au sein de la communauté puisse participer et puisse avoir une voix dans ces délibérations. Je dirais aussi que c'est très clair que nous avons pris le W de travail, work, très au sérieux. Parce qu'ici, il y a beaucoup de travail et l'on s'attend à ce que tout le monde puisse faire un grand travail. On a beaucoup de travail à faire. Et au sein de la CCNSO, nous avons établi ces attentes clairement en exprimant une déclaration d'intérêt et aussi une expression de soutien des organisations membres. Dans ce cas, les CCTLD qui font partie de la GNSO. Alors, chaque organisation ou société doivent supporter l'effort de ses membres. Voilà un autre élément critique. Compte tenu du chronogramme de ce groupe de travail et pour arriver à l'ICANN et commencer un débat en personne, non seulement pendant les réunions de l'ICANN, mais aussi que ce groupe puisse se réunir et participer en personne en dehors des réunions de l'ICANN. Et alors, ce que je viens de dire vous donne une idée des concepts de ce groupe de travail intercommunautaire et de la manière dont nous commençons à mettre en place ce travail dans le cadre de la transition des fonctions IANA. Jonathan Robinson, j'ai oublié quelque chose? Je dois féliciter maintenant. Byron Holland prend la parole. Je dois vous féliciter de votre reconnaissance. Jonathan Robinson, je crois que ce qu'il faut faire, c'est lever le micro parce que c'est... Je crois que dans la réunion de ce matin, cette réunion en personne, nous avons travaillé et abordé toutes les questions liées à la transition. On a établi les attentes des membres. On a traité des questions liées à l'engagement et aux attentes des agents de liaison pour pouvoir travailler avec efficacité et avec rapidité. Et notamment le travail de responsabilité. Il peut y avoir d'autres organisations, outre les organisations constituantes, qui puissent avoir un intérêt. Byron les a mentionnés, mais il y a d'autres organisations qui peuvent participer, c'est-à-dire qu'elles peuvent adopter la charte à travers d'une participation ouverte et qu'ils peuvent participer. Je crois que si nous suivons un chemin similaire avec celui du groupe de travail de la supervision des fonctions IANA, nous pourrons réussir à avoir la même participation et le même engagement. Je crois aussi qu'il nous faut penser à la liaison entre le groupe qui fait ce travail et le groupe qui fait le travail de la supervision des fonctions IANA, parce que c'est un principe très clair, à savoir comment ils sont interdépendants. La première diapo de Thérèse disait qu'il pourrait y avoir un lien avec l'ICG, mais je crois qu'il faut penser à comment cette liaison peut fonctionner ou quel serait un autre pont ou liaison. Teresa Swinehart, c'est un mécanisme de liaison. C'est la communauté qui choisit comment le faire. Jonathan Robinson, tel que Byron l'a mentionné, ainsi que Marika, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci beaucoup. Marika Connings, on va passer la parole à Thomas pour qu'il soit le modérateur du reste de la réunion. Je m'appelle Thomas Rickert, je suis membre du conseil de la GNSO et on m'a demandé de modérer la session. Je vais faire des commentaires pour vous dire comment ça va se passer avec les délibérations. Ce ne sera pas quelque chose d'unilatéral. L'idée, c'est de recevoir les commentaires des personnes ici présentes, ceux qui n'ont pas familiarisé avec les groupes intercommunautaires. Eh bien, c'est peut-être un peu difficile de comprendre ces deux groupes qui travaillent en parallèle et qui ont deux fils de travail différents. Nous voulons être sûrs que tout le monde a bien compris. Alors, ce groupe de travail intercommunautaire va créer une charte qui sera un manuel sur la base sur laquelle le groupe de travail va travailler. C'est donc essentiel pour nous d'avoir clair trois points. Premièrement, que tout le monde comprenne quel est le processus. Si vous avez des questions là-dessus, alors veuillez les poser maintenant parce qu'il faut que tous nous comprenions. Deuxièmement, les préoccupations, les inquiétudes. Nous allons toutes les entendre. Si vous avez des problèmes avec cette approche, je vous prie de parler. Dites-le à haute voix. Et troisièmement, si vous avez des suggestions sur ce qui doit être inclus dans la charte, dites-le. On va en tenir compte et l'équipe de rédaction va l'incorporer. Maintenant, nous allons ouvrir un espace de questions-réponses. Il y a aussi la participation à distance. Et quelqu'un va lire ces questions pour tout le panel et les personnes ici présentes. Je vous demande d'être bref pour que tous les membres de la communauté puissent participer. Je vous demande aussi de vous identifier quand vous commencez votre allocution. Steve Del Bianco de l'unité constitutive commerciale. Je suis très reconnaissant de ce changement, de ces processus guidés par la communauté. Nous sommes prêts à travailler et la clé, c'est la version préliminaire de cette charte qui aura l'apport du Conseil, mais qui appartiendra à la communauté. Je crois qu'il faut poser une question quant à la responsabilité. Le groupe de travail de la responsabilité qui va travailler dans ces deux lignes d'action. Alors, le secrétaire Strickling a dit qu'il fallait nous concentrer sur la première ligne de travail, sur les questions de responsabilité liées à l'expiration du contrat. Par la suite, il a dit que ceci était légèrement différent pour établir l'idée que le contrat n'allait plus exister. Nous parlons du contrat de l'IANA et c'est ce qui a été décrit ce matin par Fadi et qu'il a décrit comme suit. On a besoin d'un cours d'action qui s'occupe des mécanismes de responsabilité qui doivent être responsés ou ajoutés avant la transition. Il y a des questions qui doivent avoir lieu avant la transition, avant l'expiration du contrat. D'autre part, Fadi a dit que l'autre ligne de travail devra traiter les améliorations de la responsabilité et de la gouvernance de l'Internet qui ne doivent pas se passer forcément avant la transition. Alors, Fadi et le secrétaire Stiglitz reconnaissent que l'expiration du contrat IANA à partir de l'expiration, on perd l'avantage de ce pouvoir contractuel. Mais c'est vraiment important. On a vraiment besoin de ce type d'aide, peut-être pour nous avoir une influence sur la communauté, pour aider le Conseil à établir des mécanismes, de nouveaux mécanismes de sécurité pour que le Conseil soit aussi responsable face à la communauté. Ici, on a deux pistes de travail. Et il y a des questions qui doivent être abordées avant la transition des fonctions IANA. Parce que maintenant, on est sous le contrat. Mais puis, il y a une autre piste d'action qui peut avoir lieu après la transition. Il y a beaucoup de mécanismes de responsabilité. C'est ça dont vous parlez. Larry Strickland, j'espère que vous ne suggérez pas que j'ai dit que c'était différent. Très bien, parce que justement, je voulais montrer ma cohérence dans ce sens. Je crois que je comprends ce que vous dites, mais je ne sais pas ce que vous n'avez pas dit dans votre question. Larry Strickland, dans d'autres déclarations publiques, j'ai vu que l'absence d'un mécanisme lié au Conseil pourrait présenter des doutes et cela est lié à la portée limitée. C'est une question importante, ce n'est pas une question secondaire. Lorsque les gens disent qu'empêche que l'organisation prenne le contrôle du conseil d'administration lorsque le contrat n'existera plus, personne ne s'attend à cela. Mais je crois que nous pensons tous à ce type de possibilité. Il faut comprendre quels sont les types de mécanismes établis ou à établir pour éviter ce genre de choses. Steve Del Bianco, justement, je disais ça par rapport au conseil d'administration, à savoir une des six questions que le BC recommande. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Thomas Wickel prend la parole. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Monsieur Arastej. J'appartiens au GAC. Je ne suis pas un représentant du GAC, je suis un membre du GAC. Je crois que tout le monde me connaît. J'ai 40 ans d'expérience dans le domaine international, mais peu importe. Allons au point. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de groupes de coordination intercommunautaire, des groupes de travail intercommunautaire. Je crois que maintenant, ce que l'on discute, c'est la responsabilité. Nous avons compris que la responsabilité a deux lignes d'action. Premièrement, la responsabilité liée à la transition et l'autre ligne d'action, la responsabilité générale mondiale de l'ICANN. Alors, si ce groupe, on l'appelle groupe de travail intercommunautaire sur la responsabilité, alors là, il y a un autre groupe qui s'occupe du groupe de travail intercommunautaire lié au nom de la transition des fonctions IANA que nous avons discuté ce matin. Alors, il faut trouver la manière de ne pas confondre ces deux groupes. Il faut être clair pour savoir qu'est-ce que c'est que chaque chose. Puis, on a parlé des organisations constituantes. C'est qui les organisations constituantes? Elles ont une charte. On a des organisations constituantes dans le processus ou des organisations constituantes au singulier ou au pluriel. S'il y en a une ou plusieurs, je crois que nous devons prendre des exemples et des leçons de ce que nous avons fait à l'ICG. En premier lieu, on a parlé de l'organisation du groupe. Par la suite, on a parlé de la charte du groupe. Et puis, on a discuté les délais. Puis, on a parlé de la ligne de travail du groupe, du RFC. On a abordé beaucoup de questions. On a posé des questions à la communauté. Et finalement, on a discuté des lignes pour notre travail. Nous avons échangé plus de 800 courriers électroniques pour la prise de décision. On ne peut pas prendre ceci comme un exemple valide. Et compte tenu que veut dire combien de personnes, hein, la grandeur du groupe, on peut établir des questions similaires à l'ICG. Par exemple, à ce jour, on est 13, on peut être 20, 25, 30, je ne sais pas ce que vous direz. Il y a un élément qui n'est pas clair, et à savoir que ce groupe prendre des décisions sur quelque chose qui va être édité par l'ICANN elle-même. Et pourquoi comme ça? Si ce groupe prend une décision et se met d'accord et rédige un rapport final, pourquoi l'ICANN doit avoir la dernière parole? Pourquoi l'ICANN doit avoir l'autorité pour le modifier? L'ICANN, tout au plus, peut faire un commentaire, mais sans édition, sans modification. Le contenu de quelque chose qui a déjà été accordé par le groupe, quelque chose qui est légitime, qui est bien identifié, qui a été élu ou sélectionné par la communauté, par les gens, c'est-à-dire ceci ne devrait pas être modifié. Et puis, il y a des personnes qui appartiennent au conseil du personnel de l'ICANN, ils peuvent participer, mais ils doivent avoir une fonction consultative, tout simplement consultative, sans droit à la prise de décision. Dans ce sens, vous pourriez maintenir la légitimité de ces groupes qui ont été élus. Puis vous dites que les personnes envoient la réponse à la communauté. Quelle communauté? Dans quel délai? Si ce groupe envoie quelque chose au GAC, comment le GAC va répondre? Dans quel délai? Il y a quelque chose qui manque dans ce processus. On devrait avoir des propositions concrètes sur ce qu'il faut faire. Et puis, après la NTIA, qui sera le responsable de la supervision? On a besoin d'une entité de supervision, d'un mécanisme de supervision ou pas? Ou nous n'avons pas de mécanisme de supervision? Qui va traiter toutes ces questions? Et pourquoi l'ICANN doit être responsable face à elle-même? Doit-il y avoir une identité? Pourquoi cela y est? Tout doit être clair dès le début. Merci beaucoup.
Thomas Ricker prend la parole. Merci beaucoup de vos commentaires. Maintenant, Marika Konings prend la parole. Je veux répondre sur les organisations constituantes. Il s'agit des organisations de soutien ou des comités consultatifs qui adopteront cette charte. Voilà. Un autre thème que je n'ai pas mentionné dans mon introduction sur les CWG, le personnel a une fonction de soutien. Il ne participe jamais à la prise de décision dans ces groupes-là, dans les CWG. Il faut que vous le sachiez clairement. C'est l'un des principes que nous avons appliqués pour les groupes de travail intercommunautaire. Maintenant, Teresa Swinehart prend la parole. Je crois que l'un des commentaires qui ont été faits sur le fait que le personnel ou les conseillers ou l'agent de liaison du conseil d'administration participent dans la convocation au consensus, ils ne participent pas. De la même manière, les limites sur les nombres et ce type de choses dont Jonathan et Byron et Marika ont parlé, cela se rapporte à la manière dont les groupes se réunissent. Maintenant, c'est Jonathan qui prend la parole. Avant de prendre la prochaine intervention, le forum a une limite de 2 minutes. Même si nous n'avons pas de chrono, nous allons vous demander d'être aussi bref que possible. Je m'appelle Matthew Whale. C'est Matthew Whale qui prend la parole. Je suis le CEO de Dot.fr. Je gère un CCTLD, je suis membre de la CCNSO et j'ai été dans la rédaction du conseil du conseil de la CCNSO à la période de commentaires. Je veux dire que ce processus a été significativement amélioré après la période de consultation publique. J'ai besoin d'une précision concernant quelque chose qui n'a pas été mentionné lors des commentaires. Cela concerne les conseillers. Nous avons soutenu cette idée d'avoir des experts indépendants offrant une connaissance spécialisée et au groupe sans avoir le droit de vote. C'est quelque chose qui a été considéré. Mais il y avait un autre aspect que nous avons estimé important. Ces groupes intercommunautaires devraient sélectionner leurs propres conseillers sur la base de leur perception du besoin d'une connaissance spécialisée. J'ai vu que ces conseillers continuent à être désignés. D'après ce que j'ai vu, je ne me rappelle plus quel était le sigle PEG, je crois, c'était PAG, et je voudrais savoir pourquoi on a pensé que c'était une meilleure option. Le CCWG choisit ses propres conseillers, et par rapport aux conseillers, si nous en voulons de très bons, qui soient indépendants et qui veuillent consacrer leur temps, il faudrait qu'ils soient rémunérés parce que nous allons autrement avoir des difficultés à trouver ces experts. On n'a pas abordé cette question de la rémunération dans le processus actuel. C'est Thomas qui prend la parole, je crois. Merci Mathieu, je pense que c'est Teresa qui doit y répondre. Teresa Swinehart prend la parole. Excellent commentaire de la CCNSO. Et par rapport au thème des commentaires sur les conseillers, une observation que je dois faire, c'est que au fur et à mesure que la communauté sélectionne ses participants et ses membres pour le groupe intercommunautaire, il y aura beaucoup d'experts qui seront identifiés au sein de la communauté elle-même. Grâce aux commentaires, nous avons pu observer que la connaissance spécialisée vient d'autres domaines et de pratiques liées à la gouvernance ou à des thèmes concernant les consommateurs, l'évaluation des risques. Donc cette connaissance spécialisée vient de, comment le dire, d'autres environnements, d'autres entourages. Nous pouvons nous en servir et cela peut être vraiment précieux. Il se peut que cette connaissance nous donne des idées supplémentaires et des meilleures pratiques que nous puissions ajouter à ce processus. On peut donc complémenter ce que les membres sélectionnés par la communauté puissent nous aider. Ce serait vraiment précieux d'avoir d'autres conseillers supplémentaires, d'autres entités et d'autres domaines d'expérience. Voilà donc l'argument sur lequel nous avons travaillé. Si l'on suit le modèle des groupes intercommunautaires, nous pouvons avoir autant de participants que nous le voudrons. Nous pouvons aussi avoir autant d'experts que la communauté l'estimera nécessaire. Quant à la rémunération, nous avons aussi considéré ce thème et nous estimons qu'en ce moment, la rémunération n'était pas le moyen approprié. Mais si la situation se modifie, nous allons réévaluer cela. Nous voulons être transparents à propos de ça. Il y a un commentaire hors micro. Matthew Whale prend la parole. Que se passe-t-il par rapport à ces conseillers externes à propos de ce qui a été publié vendredi dernier? On disait qu'ils allaient être sélectionnés, mais pas par le groupe intercommunautaire, mais par des organismes de quatre personnes. Teresa Swinhart prend la parole. Nous avons identifié et nous avons compris la valeur des conseillers et nous avons compris combien il était important d'avoir des conseillers extérieurs à l'organisation. Nous avons pensé que d'avoir quatre experts dans cette fonction, c'était une bonne façon de faire une sélection par rapport aux autres conseillers pour pouvoir compléter ce dont nous disposons déjà dans notre processus. Matthew Whale, vous ne répondez pas à ma question. Teresa Swinhart, je vais en parler après. Thomas Rickert prend la parole. Comme nous avons 15 minutes, je vais arrêter la liste des personnes qui veulent intervenir là où elles se trouvent et nous allons tenir compte des commentaires à distance. Bien, bonjour, je m'appelle Ben Town et j'ai une question qui est liée à une autre question présentée par quelqu'un d'autre avant. J'étais plutôt dans une réunion sur le groupe de travail intercommunautaire s'occupant de la proposition pour la transition de la supervision des fonctions de l'IANA sur les fonctions concernant les noms de domaine. Et il y a une confusion considérable sur les rapports existants entre ce groupe et cette question de la responsabilité. Pourriez-vous différencier ce que chaque groupe va faire? Thomas prend la parole. Jonathan pourrait répondre. Jonathan Robinson prend la parole. Vous avez entendu Larry Strickland ce matin en parler et ce que Fadi a dit plus tôt dans son discours sur le travail de ces deux pistes de travail par rapport au groupe de responsabilité. D'une part, nous avons besoin de quelque chose de spécifique lié au retrait du gouvernement des États-Unis de cette fonction. Et d'autre part, il y a les principes de bonne gouvernance. C'est une terminologie qui est plus familière pour moi. Mais il y a un ensemble de principes de gouvernance. Il y a deux groupes de principes de gouvernance ou de responsabilité. Si l'on revient à la question de la supervision de fonction de l'IANA, dont on a parlé plus tôt, voilà ce que cela implique, cette responsabilité. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Bien. Nous avons donc ces deux processus qui sont associés à cette question. Exactement. Et si nous abordons la question de la supervision sur les fonctions des noms, nous avons aussi une demande de responsabilité. Mais on peut l'exprimer autrement. Cette responsabilité concerne un accord de niveau de service, un contrat de niveau de service. Concernant la performance de ces fonctions techniques, est-ce que vous m'entendez là, au fond? Non? Bon, il se peut qu'il y ait un problème technique. Vous m'entendez mieux maintenant? Bon, voilà, parfait. Nous avons parlé de deux processus de responsabilité et l'on a parlé aussi de ces processus dans deux contextes différents. La responsabilité liée à la fonction de nom d'une part et d'autre part, il y a cette demande sur une responsabilité plus technique concernant l'accord ou le contrat de niveau de service pour avoir une performance répondant à un certain nombre de critères de performance. J'espère que cela nous aidera à clarifier les choses. Nous parlons tout le temps de responsabilité. Nous le répétons très souvent, mais bon, maintenant on a un écho, on s'entend mieux. J'espère que malgré les problèmes de son, les choses auront été suffisamment claires. Thomas Ricker prend la parole maintenant. Il la cède à Wolf Ulrich Norman. Je travaille pour la GNSO et je suis membre aussi de l'ICG. Je suis un membre de l'ICG. En cette dernière qualité, je m'intéresse vraiment beaucoup à ce qui fait l'objet du débat de ce processus. Je veux remercier Larry de la présentation qu'il a faite et d'éclairer un tout petit peu ce qui se passe sur ces deux pistes de travail avec lesquelles nous travaillons. Et à cet égard, j'ai une question spécifique. Nous savons que le temps est essentiel dans ce processus. L'ICG a commencé à développer un calendrier qui commence par au moment de la situation contractuelle avec l'IANA, qui se terminera l'année prochaine. Voilà pourquoi nous prévoyons les choses à partir de ce moment-là jusqu'au moment actuel. Mais dans cette discussion, dans le groupe de travail intercommunautaire, cela signifie qu'il faut savoir comment on va résoudre cette pression qui est exercée par rapport aux jours qui nous sont accordés pour établir un calendrier. Il y a aussi un autre argument qui est utilisé et qui exerce une pression sur ce groupe aussi et qui est lié au fait que le gouvernement des États-Unis peut changer dans l'avenir, il va changer dans l'avenir, et que nous allons une petite période qui nous permet de réussir dans ce processus. Parce qu'autrement, nous ne savons pas ce qui peut se passer lorsque le gouvernement actuel aura fini son mandat. Voilà donc un argument que je ne peux pas enfin valoriser ou que je ne peux pas enfin apprécier en tant qu'Européen, parce que je ne suis pas justement états-unien. Donc, en tant que membre de ce gouvernement, comment appréciez-vous, quelle estimation faites-vous de cet argument? Parce que cela exerce une forte pression sur les délais à respecter. Larry Strickling prend la parole maintenant. Bon, à moins de voir quelque chose d'inusuel, le gouvernement ne changera pas avant janvier 2017. Donc, en ce qui concerne le calendrier et les dates butoirs et les délais, nous avons le 30 septembre 2015. C'est le moment de l'expiration du contrat actuel. Il manque pratiquement un peu plus d'un an. Espérons que la communauté s'organisera d'elle-même et qu'elle travaillera assidûment et qu'elle développera un plan. Mais nous voulons avoir, en fin de compte, un plan bien réfléchi, bien fondé, et que la communauté soit sûre de ce qu'elle fait, tous les efforts possibles pour développer ce plan. Larry Strickling, merci. C'est Thomas Ricker qui prend la parole. Merci à M. Strickling pour sa précision. La personne dit son nom, mais elle n'est pas claire. Elle est représentante des communautés aérières. Nous travaillons sur les propositions pour l'avenir de la supervision des fonctions de l'IANA. Excusez-nous, le commentaire n'est pas fait devant le micro. Nous ne recevons pas le son. En septembre 2014, 5 RIR ont publié la matrice de gouvernance des RIR. Il y a un groupe de RIR qui a présenté des questions et des réponses. Il y a eu plusieurs débats lors de la réunion de l'ICANN à Londres et lors de la réunion de l'IGF. Et il se peut que vous puissiez voir les deux arguments qui ont été présentés là pour toutes les parties prenantes des aérières. Je pourrais peut-être appeler votre attention là-dessus pour que vous en teniez compte. Thomas Ricker remercie. Et maintenant, Jonathan Sack prend la parole. Je travaille pour l'organisation APC. Merci de la clarté sur ces deux pistes de travail qui nous donnent une idée de ce sur quoi il faut que nous nous centrions. Je pense qu'une question qui reste, c'est comment le conseil d'administration peut réagir à l'avis que la communauté pourrait donner. Et comment la communauté pourrait réagir s'il y a un désaccord entre le groupe de travail intracommunautaire et le conseil d'administration. Larry Strickland dit, il ne faudrait pas qu'il y ait de désaccord. Jonathan Sachs reprend la parole. Oui, je suis d'accord, mais il faudrait le savoir. Hein? C'est bien de savoir que la résolution du conseil ne sera pas en désaccord avec celle du groupe intercommunautaire. Larry Strickland dit, je pense qu'il faut que ce soit une proposition par consensus. S'il y a un élément que le conseil ou le groupe de travail intercommunautaire pense que ce qui a été présenté ne représente pas la solution qui peut être analysée de manière approfondie, bon, je pense alors que ce que la communauté doit être assurée de savoir, c'est qu'il faut travailler ensemble pour présenter à Washington une proposition complète qui puisse inclure le conseil d'administration et tout le reste de la communauté. Bon, Bertrand de la Chapelle prend la parole maintenant. Bonjour, bon après-midi. Je m'appelle Bertrand de la Chapelle. Oui, bien sûr, mettez le chrono. Premier commentaire, si vous regardez l'ordre du jour et l'agenda pour cette semaine, le même thème est abordé dans deux ou trois différents horaires dans tous les groupes et toutes les unités constituantes. Le nombre de débats réalisés au sein de la communauté n'a pas de proportion parce que la communauté ne peut pas agrandir ou accroître sa compréhension pour toutes les positions. Je pense que pour la réunion de Marrakech avec les présidences des organisations du soutien et des comités consultatifs, l'on établisse un débat important dans la communauté qui soit approfondi. Le deuxième élément par rapport à ces deux pistes de travail, il y a bien sûr des méthodologies et des mécanismes de responsabilité dans ces deux pistes. L'une d'elles concerne la transition des fonctions de l'IANA et l'autre concerne la responsabilité du quotidien et le travail au cas par cas. Mais pour ce qui est du mécanisme sur la résiliation de ce mandat, si l'on ne respecte pas les critères de performance adoptés. Le troisième élément, qui semble être le plus important à mon avis, parle de la légitimité de ce mandat et de la légitimité pour révoquer ce mandat. Et il y a une autre question qui est beaucoup plus large. D'après mon expérience, parce que j'ai été dans le conseil d'administration et j'ai vu les mécanismes de reconsidération, ce qui est très important, c'est que j'ai compris il y a peu de temps que le mot reconsidération est utilisé aux États-Unis pour des procédures qui se font au sein de l'organisation elle-même. C'est quelque chose que nous, les Franchons, en français, a une autre appellation. Mais ce n'est la seule appellation qui existe en ce moment, c'est le panel de révision indépendant qui a un seuil d'accessibilité qui est disproportionné par rapport à ceux qui demandent de la révision. Pour le mécanisme de responsabilité, tous ces mécanismes de trois étapes doivent être abordés pour que l'on puisse avoir une structure au sein du débat. La reconsidération peut être une manière de faire les choses, mais nous avons besoin d'un système d'appel intermédiaire qui soit en dessous de l'IRP ou du panel de révision. Nous croyons que c'est quelque chose sur quoi nous discutons quant à la question de point Africa. Donc, si cela doit être contraignant, comme une dernière raison de responsabilité, cela doit être conçu autrement, mais il faut que cette organisation ajoute une certaine responsabilité externe qui soit contraignante. Et la question de la compatibilité avec la législation, la loi des États-Unis doit être clairement établie et présentée. Je n'ai pas de réponse, mais je crois que le cadre pour un débat est déjà établi. Thomas Frickel reprend la parole. Merci beaucoup, Bertrand. Cela a été parfait pour le temps alloué et nous devrons enfin arrêter les interventions après celle de Bertrand. Je sais que ce débat se poursuivra, mais à moins que Marika ne veuille nous dire quelque chose à propos d'un commentaire public pour une charte ou de nous dire quelle est la prochaine occasion pour que la communauté fasse ses commentaires. Marika Konings reprend la parole. Non, il n'y a pas de commentaire public, en tout cas, au point de vue de CWG, parce que l'idée, c'est que les participants à l'équipe de rédaction puissent faire des commentaires et qu'ils parlent avec leur communauté pour savoir ce qu'ils doivent inclure dans la charte. Alors, nous estimons, nous imaginons que c'est le mécanisme qu'on va utiliser dans les organisations de soutien ou dans les comités consultatifs. Thomas Rickert, merci des commentaires. Chacun donc peut contribuer pour chaque groupe, pour son groupe. Je ne sais pas si les membres du panel veulent faire une déclaration pour clore cela. Jonathan Robinson prend la parole, je n'ai rien d'autre à ajouter. Thomas Rickert dit, je veux clore cette séance. Merci de votre participation et de l'intérêt que vous avez porté à ce thème. Et merci aux membres du panel.